Est-ce que vous téléchargez de la musique?
Oui.
Un peu, mais pas spécialement blindé.
Oui.
Oui, musique, film, tout.
Non, non. Je trouve que c'est pas bien de télécharger parce qu'on empêche les artistes de vivre.
Oui. Le fait d'avoir téléchargé ne nous incite pas à acheter un CD, quoi.
Oui, la plupart du temps, ils sont pas en vente, en fait.
Ouais. Je me demande si j'ai jamais acheté un CD dans ma vie, en fait, sincèrement.
À l'heure de la faillite de la société belge Sonica, maison mère des magasins Extrazone, le téléchargement revient sur le devant de la scène et certains l'accusent à nouveau de tuer le disque. Yves, disquaire et gérant d'un petit magasin de disques Goupilophone à Bruxelles.
Le secteur du disque est en crise, on le sait, et ça s'est accru, enfin ça s'est surtout développé en 2002. Grosso modo, l'ensemble du secteur a connu 40% de diminution de chiffre d'affaires sur 13-14 mois.
Et vous pensez que c'est dû à quoi?
C'est dû au téléchargement. Il y a un abandon d'une partie de la population, qui est le jeune, vers l'achat de la musique. Pourquoi? Parce qu'il a des jeux achetés. Et puis il y a le GSM. Le GSM, c'est une carte de crédit dans les mains d'un jeune. C'est-à-dire qu'il a son GSM et en fin de mois, il se retrouve avec 10, 15, 20 euros à payer sur sa facture. Ce pouvoir d'achat-là, le jeune, c'est le seul qu'il a. C'est lui qui est perdant, je pense. Parce qu'il ne sera pas éduqué musicalement comme nous on l'a été et comme nos parents l'ont été avant. Il ne faut pas croire que le téléchargement a fait bénéficier la condition de l'artiste. Et ça, je vous l'assure, qu'il n'y a pas un artiste qui va vous dire qu'il est content depuis que le net est là. Je veux dire, il vendait bien plus avant et c'était cher et on n'avait pas d'autres alternatives et c'était comme ça. Quoi. C'est un tort que je donne aux firmes, ça. C'est par exemple, elles auraient dû inventer autre chose sur le produit. C'est-à-dire qu'on fait des CD de Bob Dylan, de Madonna et compagnie, on aurait très bien pu mettre les paroles en français, les traductions, des choses intéressantes, la vie, il y a de l'information qui pouvait être disponible sur le CD.
Une chose est sûre, le disque est aujourd'hui en perte de vitesse. Les maisons de disques se demandent alors comment enrayer cette chute des ventes. Les fournisseurs d'accès à Internet peuvent-ils être mis à contribution pour traquer ceux qui téléchargent? David, étudiant belge, a en tout cas reçu un jour une drôle de lettre.
Je suis abonné depuis plusieurs années chez Scarlett. Avant, j'avais l'habitude de télécharger régulièrement des films et de la musique sur les réseaux de partage. Un jour, moi où j'ai un peu abusé, j'ai reçu un avertissement de Scarlett me demandant d'arrêter toutes mes activités de téléchargement. Donc depuis, j'ai arrêté de télécharger. C'est ça un peu le problème aussi chez Scarlett, c'est qu'ils permettent de télécharger jusqu'à 100 gigas par mois. Mais d'un côté, on ne peut pas télécharger sur les réseaux de partage, donc c'est un peu paradoxal.
Il existe en Belgique la BAF, la Fédération Anti-Piratage de Belgique, qui poursuit les pirates en tout genre. Christophe Van Meekelen, directeur, est lui convaincu du rôle primordial que doivent jouer les fournisseurs d'accès à Internet, comme dans la loi Hadopi en France, où ceux-ci peuvent aller jusqu'à couper la connexion des pirates récidivistes.
Chaque année, en fait, on voit que la piraterie, bien hors ligne qu'en ligne, croissant, en fait. Par exemple, les saisies de disques, donc DVD et CD, de l'année passée jusqu'à maintenant, c'est une hausse de 75%. Chaque année, on supprime plus de 1 million de fichiers, de liens vers des fichiers légaux.
Ils sont beaucoup condamnés en Belgique?
Il y a encore beaucoup de classements sans suite. En fait, les sanctions, c'est assez élevé, mais ce n'est pas encore assez appliqué.
La répression, c'est le meilleur moyen d'empêcher le téléchargement illégal?
En fait, tu dois lutter sur deux fronts. Premièrement, il faut des organisations comme la BAF qui s'attaquent contre les gens qui en font du commerce. Mais ça reste des actions ciblées contre des individus, des réseaux d'individus. Si tu veux vraiment faire quelque chose contre le fléau de téléchargement illégal, en fait, il n'y a qu'une partie qui peut le faire, ce sont les FAI, les fournisseurs d'accès à Internet. Ils sont les seuls à pouvoir prendre des mesures techniques sur leur réseau pour combattre l'offre illégale. Eux, ils peuvent filtrer, ils peuvent bloquer des sites web étrangers, ils peuvent faire un truc comme en France avec la loi Hadopi. Tu ne vas jamais annuler la piraterie à 100%, si tu peux oublier. Mais il y a encore quand même les moyens de le combattre, même si c'est à 80%. Eh bien, c'est 80% de l'offre illégale que tu as supprimée. Ça va toujours rester un jeu entre nous, soi-disant, et les pirates. Ils vont toujours trouver de nouveaux moyens de contourner les protections et de quand même partager. Eh bien, c'est à l'industrie ou à nous de faire la même chose. Mais par exemple, ce qui est bon dans la loi Hadopi à France, c'est aussi un peu un outil éducatif. Parce qu'il n'y a pas immédiatement une sanction. Non, tu reçois d'abord deux avertissements de bien vouloir cesser l'échange de fichiers légaux à grande échelle avant qu'ils prennent des mesures, en fait.
Jean-Christophe Lardinois est avocat et spécialisé en droit de la musique et de l'audiovisuel. Si, comme il l'explique, l'illégalité du téléchargement ne peut pas être contestée, les mesures à prendre doivent être plus nuancées et la répression n'est pas forcément la solution.
La loi sur le droit d'auteur avait déjà été modifiée en 1994. La loi n'était pas assez précise et donc tout ce qui était nouvelle technologie de l'époque, à savoir le développement de l'Internet, était finalement pas tout à fait couvert, ou du moins il y avait des zones d'incertitude dans la loi. Suite à une directive européenne, pour que tous les États membres soient aussi sur la même longueur d'onde, sans mauvais jeu de mots, il y a eu en 2007 des modifications qui venaient amener finalement le législateur à dire le téléchargement entre guillemets illégal est une infraction parce qu'il y a une violation du droit de reproduction. Et donc le souci c'est que voilà, on ne peut pas le faire et l'alternative elle est compliquée aujourd'hui puisque le nouveau support fait que ça n'appartient plus à personne. La question, est-ce qu'il y aurait une loi Hadopi en Belgique ? À mon sens, on n'en parle pas encore, mais ça pose aussi d'autres types de problèmes, notamment protection de vie privée. Ça veut dire qu'on met un gendarme derrière chaque ordinateur. Je pense qu'on se trompe de cible, mais il y a eu des réflexions de dire à qui profite le crime ? Qui gagne finalement de l'argent derrière ça ? C'est les fournisseurs d'accès, les fournisseurs de contenu, les hébergeurs. On s'est dit à un moment donné, pourquoi est-ce que ces intermédiaires-là ne reverseraient pas un petit quelque chose ? Parce qu'eux se portent très bien. Alors là, ça pose d'autres problèmes, évidemment, parce qu'ils vont dire, nous, pourquoi est-ce qu'on serait quelque part taxé ? Nous, on ne fait rien d'illégal. Tout ça est un peu compliqué aussi, économiquement parlant. Mais quelles sont les vraies autres pistes ? Moi, quelquefois, je rêve à revenir dans ce que la musique a de meilleur. Et je trouve que si on revient peut-être à une approche différente de la culture ou du produit culturel, peut-être que les gens, par eux-mêmes, vont dire « Tiens, finalement, ça me plaît d'avoir en main quelque chose qui est réel. »
La situation n'est peut-être pas aussi catastrophique qu'on pourrait le croire. Henri Greindl, musicien et directeur du label de jazz et musique du monde, Mogno Music.
En tant que label indépendant, est-ce que vous avez constaté une baisse dans vos ventes ?
Non, le contraire, les ventes augmentent. Moi, je me dis que ça va changer, de toute façon. Je pensais que ça changerait plus vite. Donc, il y a deux ans, je me dis, on va arrêter de produire des disques, on va essayer de diffuser la musique autrement. Pour moi, la vente en téléchargement est une bonne chose, mais le problème, c'est que le digital est tellement facile à copier que mettre des verrous, ça ne marchera jamais. Il y a toujours quelqu'un qui va passer au-dessus. Donc, il faut faire comme font certains sites, c'est proposer la musique très bon marché. Et puis, l'objet va probablement rester pour ceux qui aiment vraiment, qui veulent avoir des infos en plus sur du papier, et bien avec une belle pochette. Ça joue certainement. Dans la tranche 12-18 ans, je pense que ça, c'est rare qu'ils achètent des disques. Ils téléchargent. C'est tellement facile de trouver des sites où télécharger que je ne vois pas très bien pourquoi ils achèteraient. Eux n'ont moins le désir d'avoir l'objet, sauf quand c'est vraiment un disque qu'ils aiment bien. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de... Les petits disquaires disparaissent. Moi, je me rappelle, à partir du moment où j'ai commencé à acheter des disques, quand j'étais étudiant, je découvrais des choses par deux canaux, par quelques disquaires que je connaissais. Et j'allais là, je disais, voilà, j'aime bien ça, qu'est-ce que tu as proposé dans le même style ? Et la médiathèque aussi. C'est un peu les compagnies disques qui créent le problème indirectement, moi je trouve, parce que si on compare encore une fois, il y a 20 ou 30 ans, dans les compagnies disques, il y avait des gens qui connaissaient la musique et qui étaient passionnés de musique. Dans les grosses compagnies, ce qu'on appelle les majors maintenant, et tous ces gens ont été éjectés par des jeunes loups commerciaux et qui ne connaissent rien en musique. En fait, actuellement, dans une grosse compagnie, dans les grandes compagnies disques, il n'y a personne qui connaît quoi que ce soit en musique. Ils s'y connaissent en marketing, en vente, mais il ne faut pas leur demander aucune référence de quoi que ce soit en musique ou de citer. Non, mais ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Des groupes comme Genesis ou Yes, ça ne vendait pas du tout, c'était vraiment de l'expérimental total. Mais il y avait quelques bandes de fous passionnés derrière qui se disaient « Ok, on va essayer, c'était un four, on a investi le premier disque, ça n'a pas marché, ça ne fait rien. On essaye encore, on essaye pendant deux ans et on va réussir. » Et ils ont réussi à vendre des trucs invendables au début parce que c'était plus difficile à écouter. Et puis le public s'est dit « Ah oui, mais il y a quand même quelque chose un peu différent. »
Mais le téléchargement illégal ne serait-il pas également une conséquence de notre société de consommation ? Joëlle Lieberman, sociologue et directrice d'Egérie Research, une boîte qui étudie les rapports entre les marques et les usagers.
Tous les gens qui ont moins de 35 ans sont tombés comme Obélix dans le marketing en naissant. Donc depuis que vous êtes petit, vous êtes super sollicité par le marketing, super courtisé, super érodés à recevoir des messages, des cadeaux, des promos. C'est rentré dans une manière naturelle de dealer avec les marques. Les personnes qui ont plus de 45 ans, elles pensent que les marques leur veulent du bien. De l'autre côté, on a appris à dealer et on dit « ça c'est vraiment du bullshit quoi ». Il y a certaines marques qui sont bien. Et c'est les marques dans lesquelles je m'implique. On voit par exemple avec les jeunes tout ce qui est marque dans le domaine du sport. Mais à part ça, il y a vraiment un rapport dur où ils disent « mais moi, les marques, elles ne me veulent pas du bien ». Et comme ils sont extrêmement courtisés par les marques, dans tout ce qui est le rapport avec la toile, c'est très facile d'avoir les choses gratuitement. Donc naturellement, ils ont un rapport où en fonction de ce qu'on leur propose, ils passent de l'un à l'autre. C'est comme ça qu'on les a éduqués. Le problème, c'est les marques qui l'ont instauré. En proposant toujours plus que le voisin, l'opportunisme en réaction chez tous les consommateurs, mais surtout chez les jeunes, c'est une réponse. Et donc, la frontière entre le piratage et la nouvelle attitude est très floue. On est à ce moment-là. On est vraiment à un moment où il va falloir redéfinir les règles. Donc, les marques vont devoir inventer un nouveau système, mais où l'accès à la marque sera gratuit. Et notamment, tout ce qui passe par la toile va probablement devenir gratuit. Alors, l'industrie du disque est probablement l'industrie qui souffre le plus. Mais il y a une distance énorme entre l'industrie du disque et l'artiste. Et donc, à partir du moment où l'industrie, et je parle bien, je pousse sur ce mot-là, pousse des artistes comme des produits, tu peux pas demander de l'autre côté qu'à un moment donné, on te considère comme un humain. Ils se vendent comme des produits, ben on les jette comme des produits. On a un système qui marche plus. Et c'est le système qui crie « j'agonise !» Et si j'agonise, tous les artistes vont mourir. C'est pas vrai. C'est le système économique et rentable, financier, qui va mourir. On est à un moment où on va devoir réinventer un nouveau deal entre un consommateur qui est bon en marketing et un marketeur qui admet qu'en face de lui, il a quelqu'un d'intelligent et pas un con slash sommateur.
Marina Bresciani est responsable produit chez Sony. Pour elle, les maisons de disques doivent se reprendre, mais elle pointe aussi du doigt un problème d'éducation.
Avec le téléchargement illégal, je pense qu'il y a aussi un problème d'éducation à la base, c'est-à-dire qu'on apprend aux enfants qu'on ne peut pas voler dans les grands magasins, mais le vol de musique n'est pas considéré comme un vol. Je pense qu'il y a vraiment un problème de société en général et de conception de la consommation. Dans l'ensemble, il faut quand même partir du premier principe qui est l'artiste n'est pas rémunéré. Après que les maisons de disques ne le soient pas, ça c'est encore un autre débat. Parce qu'on peut trouver d'autres, on devrait pouvoir trouver d'autres formules. Et il y a vraiment une vraie réflexion à avoir au sein des maisons de disques qui ont fait des graves erreurs dans les années fin 90. Justement, on a vraiment laissé passer le train Internet. On s'est complètement gouré, c'est très clair, je pense. Mais il y a maintenant des preuves à apporter et de choses à faire.
Notre comportement, nos habitudes de consommation, plusieurs facteurs semblent être à l'origine du mal-être du disque. Et Internet et le téléchargement ne signent pas forcément l'arrêt de mort des artistes et de leurs œuvres. La grosse industrie du disque, dépassée, devra s'adapter. Mais ce n'est pas forcément un mal en soi quand on voit le foisonnement de plateformes de diffusion et de production, comme AKA Music ou My Major Company, où les internautes peuvent produire des artistes, ou encore le service de téléchargement de groupes émergents sur le site de la médiathèque. La vraie bonne musique de qualité a peut-être plus d'atouts qu'on ne le croit pour résister.